Côté expert sur France Bleu La Rochelle.
France Bleu La Rochelle est à vos côtés chaque jour pour parler de sujets du quotidien. Vos questions autour des animaux ce matin, nos chiens, nos chats, au 05 46 50 67 68. On va notamment parler des dangers du printemps. On va détailler ça avec notre invité, le docteur Guillaume Pierre Mias. Bonjour docteur.
Bonjour Chloé.
Vétérinaire donc à la clinique Anicura La Rochelle. C'est quoi les dangers du printemps pour nos compagnons à quatre pattes?
Alors les dangers du printemps, il ne faut pas non plus stigmatiser, c'est pas, il ne faut plus sortir son chien ou son chat au printemps. Ben, y a pas mal de petites choses qui sont liées à la reprise d'activité, au fait que des pollens reviennent aussi, il y a les végétaux qui sont en effervescence et donc ça peut créer des allergies au niveau de nos animaux, des allergies respiratoires ou conjonctivales au niveau des yeux. Et on ressort plus, donc forcément il y a plus de risques de petits traumatismes lors de la balade, de piqûres d'insectes, de choses liées au bricolage, au jardinage, enfin pas mal de petites choses pour lesquelles nous aussi on peut, enfin on a un danger. Donc en fait, ce qui se passe pour nous se passe pour eux aussi.
Oui, donc ils peuvent être allergiques finalement à des choses tout comme nous.
Exactement, allergiques aux graminées, allergiques à certains pollens, s'intoxiquer avec certaines plantes, fort comme le muguet qui va arriver dans quelques jours, c'est très toxique pour nous comme pour eux. Donc faut faire attention. Il y a pas mal de petites choses qu'on essaye de qui peuvent manger, le lys, certaines plantes ornementales qu'on a dans nos jardins qui éclosent à ce moment-là et qui surtout sur les jeunes animaux qui sont un petit peu curieux, qui testent un petit peu tout, peuvent poser quelques problèmes.
Ça va être des soucis légers qui peuvent se traiter ou ça peut être
alors,
parfois plus
grave?
Alors,
légers qui peuvent se traiter, il y a certaines plantes qui vont juste provoquer des vomissements et puis d'autres plantes comme le muguet qui peuvent avoir des répercussions au niveau du rythme cardiaque et qui peuvent parfois entraîner la mort jusqu'à certaines ingestions importantes, on va dire. Comme l'avocat, ça paraît tout bête. Nous, on en mange bien de l'avocat, mais chez le chien, on peut risquer des troubles cardiaques assez forts. Un chien qui mange deux avocats ou même des peaux ou des noyaux peut avoir des répercussions très importantes.
Il est 9h13 et on s'intéresse à nos animaux ce matin avec le docteur Guillaume Pierre Mias qui est à nos côtés, qui est vétérinaire à la clinique Anicura Saint-Roch à La Rochelle. Et puis avec vous aussi, vous pouvez bien sûr poser vos questions sur vos chiens, sur vos chats. S'il y a des comportements qui vous soucient par exemple, vous nous passez un petit coup de fil au 05 46 50 67 68. On est là pour répondre à vos questions. Et puis on évoque aussi tout ce qui entoure le printemps. Forcément, on a dit, on recommence à sortir aussi. Et puis c'est le retour des insectes, docteur. Alors forcément, il y a des fois quelques petites inquiétudes. Ça peut arriver que les animaux, les chiens, les chats se fassent piquer, non? Par différents insectes.
Ils sont même souvent plus piqués que nous parce qu'ils sont assez curieux. Ils vont fouiner un peu partout. Donc le retour des abeilles, des guêpes, bien sûr, il y a ces piqûres-là qui sont en général pas très graves. Impressionnante parce que c'est un peu douloureux, ça dépend de son chien, s'il est douillé ou pas, ça fait vite gonfler, et ça peut être un petit peu plus préoccupant quand l'animal a ingéré l'arthropode, donc la guêpe ou l'abeille, parce que quand on pique dans la gorge, ça peut gonfler, provoquer des problèmes respiratoires. Donc quand on a vu son animal se faire piquer, on peut attendre quelques minutes, voir le gonflement local, et puis si vous êtes inquiet, consulter un vétérinaire, ça peut être intéressant. Il y a ces insectes-là, il y a aussi les tiques.
Oui.
Attention, voilà, c'est pas les mêmes piqûres, c'est plus, on parle de morsure chez la tique parce qu'elle reste fixée et elle peut transmettre des maladies qui sont très graves, notamment la pyroplasmose qui est un petit peu l'équivalent du paludisme chez l'humain, donc un parasite qui va aller dans les globules rouges, ou la maladie de Lyme, on en entend beaucoup parler, une vilaine bactérie qui est un peu insidieuse et qui met longtemps à se développer. Donc très important de bien traiter en amont ces animaux avec des répulsifs ou des insecticides. Il y a plein de produits qui existent pour limiter justement les piqûres de tique, ou alors quand elles piquent, les faire tomber comme les puces aussi, les faire mourir assez rapidement avant qu'elles transmettent les maladies, parce que ces maladies-là sont graves. Pour certaines, il existe des vaccins, pour d'autres non. Donc vraiment se prémunir, enfin prévenir l'infestation de son animal par ces parasites-là, c'est très important.
Pour les tiques notamment, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Quand je pense à un chat qui a des poils longs, comment on se fait pour s'apercevoir et déceler les tiques? Faut vérifier
c'est
un petit
facile.
Peu.
Faut, alors pour un chat qui a le poil long, faut le brosser régulièrement. On voit vite quand on passe la main, quand on le papouille, une tique, ça se sent quand même pas mal dans le poil du chat. C'est des fois plus dur à sentir finalement dans le poil du chien qui est plus épais. Mais voilà, comme pour nous, les mêmes précautions quand on revient d'une grande balade avec son chien, et ben on essaie de le brosser, de voir s'il n'y a pas des tiques, de les retirer. Alors les retirer, il ne faut surtout pas les stresser. Les remèdes de grand-mère, ça ne marche pas du tout. La cigarette, l'éther, l'alcool dessus, au contraire, c'est même plus délétère que positif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tique va transmettre la maladie, les maladies graves qu'elle héberge. Elle n'est pas malade, elle, mais elle héberge les germes ou les parasites. C'est dans dans son tube digestif en général. Et c'est quand elle régurgite, parce qu'elle se gorge de sang, c'est quand elle régurgite qu'elle peut transmettre ces maladies-là. Et le stress va la faire régurgiter. Donc pour retirer une tique, il existe des dispositifs qui sont très simples, peu onéreux, c'est des tire-tiques ou des crochets à tiques qu'on passe sous la tique, qu'on fait tourner, et comme ça on décroche la tique sans trop la stresser. Quand on arrive à voir le rostre, donc la pointe avec laquelle elle est fixée dans la peau de l'animal, tant mieux. Si on n'arrive pas à retirer la pointe, si elle se casse, qui est régulièrement rencontrée, ça crée un petit bouton, une petite inflammation locale qui n'est pas très grave, qui dure 10 à 15 jours. En désinfectant localement, en général, on s'en sort très bien.
Sur les piqûres style abeille, on parlait de piqûres dans la gorge, ça peut arriver qu'elle pique à un autre endroit l'animal et qu'on s'en rende pas forcément
truffe,
compte
sur la babine. Si elle pique
plutôt,
ailleurs,
plutôt
on s'en
sur
compte.
Le visage.
Ouais, parce que ça grossit vite, on gonfle vite, mais c'est des gonflements, des tumé, ce qu'on appelle les tuméfactions, qui sont assez fugaces, qui durent quelques heures, qui sont un peu impressionnantes, qui sont pas très agréables. Donc en général, une injection de cortisone, voire un relais par la bouche pendant une à deux journées est intéressante pour soulager l'animal plus rapidement.
Ça peut arriver que les moustiques piquent aussi nos
Exactement,
animaux.
Les moustiques piquent. Alors surtout les animaux qui ont des zones glabres, parce que le moustique dans les poils il a peu de passage, mais sur les oreilles, sur le bord des babines ou sur le ventre, dans les zones glabres, ils peuvent piquer. Dans nos régions, on n'a pas encore beaucoup de maladies consécutives aux piqûres de moustiques. Par contre, dans le sud de la France, et c'est en train de remonter avec le réchauffement climatique, on a une maladie grave qui est transmise par un moustique qu'on appelle le phlébotome, qui est une maladie donc parasitaire aussi. C'est la leishmaniose, d'accord. Donc ça, il faut y faire attention. Et il y a certains vaccins qui existent. Qu'on fait peu en pratique ici, mais qui est souvent pratiqué dans le sud de la France, qui prémunit de cette maladie. Donc pareil, protéger son moustique quand il y a des moments de la journée où il y a beaucoup de moustiques, comme nous quand on s'en protège, il faut se dire bon ben là on rentre, ou alors on va pas forcément se balader dans cette forêt ou dans ce lieu marécageux parce que c'est infesté, parce qu'on risque des infestations.
Les répulsifs pour les animaux sont différents de ceux pour les hommes?
Oui.
Alors, on fait attention à pas utiliser les mêmes produits.
Voilà, les sprays, on utilise peu de sprays chez l'animal. Il y a des colliers qui marchent bien. Mais encore une fois, c'est des répulsifs, ça marche pas à 100%. Ça limite un petit peu. Mais voilà, ça évite pas complètement les piqûres et les infestations par les tiques ou les puces.
On continue à parler de nos animaux ce matin. Vous pouvez poser vos questions sur vos chiens, vos chats au 05 46 50 67 68. Le docteur Guillaume Pierre-Mias est à nos côtés, vétérinaire à La Rochelle, pour répondre à vos questions. On évoquait les piqûres et les différents insectes. Il y a aussi les chenilles processionnaires dont on a pas mal parlé forcément autour de nos animaux, parce que ça c'est une inquiétude forcément sur les balades, docteur.
Oui, c'est une inquiétude. C'est presque l'insecte le plus dangereux qu'on puisse trouver en France. Alors la chenille processionnaire, elle a tendance à sortir en fin d'hiver, début de printemps. Là on est presque sur la fin. On en voit beaucoup moins, on n'en a pas vu beaucoup cette année, ça dépend un petit peu des années. Donc elles éclosent, c'est souvent ce qu'on voit dans les pins, vous savez, des gros pompons blancs. Quand on a ça dans son pin ou dans le pin du voisinage ou même dans la rue ou à 100 mètres de chez soi, faut faire attention. Parce que les chenilles, donc elles éclosent quand les températures remontent un petit peu, ça fait des processions, comme leur nom l'indique, qui sont des fois très longues, qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres et qui se déplacent pas mal. Donc même si le pin est chez le voisin du voisin. Il faut savoir que si on a vu les pompons blancs, potentiellement, il peut y avoir les chenilles dans son jardin. Leur odeur attire les animaux. Heureusement, bon, les chats ont un peu plus de recul que les chiens. Les chiens sont plus curieux, donc souvent les chiens se font avoir. Et ils vont les ingérer.
Ah oui, ils vont essayer de les manger carrément.
Voilà, donc souvent, ce que le propriétaire voit, c'est pas forcément l'ingestion de la chenille, c'est son chien qui revient du jardin avec les babines gonflées et qui bave beaucoup. Dans ces cas-là, il faut avoir le réflexe de mettre des gants et de vite rincer à grande eau la bouche du chien. Alors on se met dehors, on prend un jet d'eau et puis on lui met le jet d'eau dans la bouche. Alors c'est pas très facile, le chien se débat un petit peu, on se mouille, mais c'est le premier réflexe à avoir. Et pendant que la personne fait ça, une autre personne appelle le véto en disant bah écoutez, notre chien a ingéré des chenilles, est-ce qu'il peut être vu rapidement? Parce que voilà, plus on va rincer les poils qui pourraient être restés dans la bouche, les poils urticants de la chenille, mieux c'est. Plus on va mettre en place une corticothérapie, mieux c'est, parce que ces poils entraînent des nécroses très importantes. Et souvent, même quand on arrive à temps, on se laisse 4 à 5 jours. En fait, il y a 4 à 5 jours de délai pour que les tissus qui ont été en contact avec les poils meurent. Et très souvent, on a quand même des pertes de morceaux de langue ou de babines, dû aux chenilles processionnaires. Donc plus on va vite, mieux c'est. Et puis pareil, on essaie de protéger l'estomac, parce que les chenilles, enfin l'ingestion de poils, il y a des poils qui peuvent se retrouver au niveau de l'estomac. Des fois, certains chiens ont besoin de lavage gastrique quand ils ont mangé beaucoup de chenilles.
Donc on fait attention dans les jardins, dans les balades en forêt aussi, du coup, dans le coin, ça
exactement,
peut arriver.
Exactement, il faut faire très attention. Et puis quand on manipule son chien qui a vu des chenilles, il faut mettre des gants soi aussi, parce que les poils qui sont sur le chien peuvent être urticants pour nous. Les humains sont très sensibles aussi aux chenilles. J'en ai fait les frais une fois, c'est pas agréable
ouais,
du tout.
Ça doit pas être très agréable, effectivement.
C'est pas agréable.
Dans le côté jardinage aussi, c'est vrai, quand on a tendance à vouloir mettre un peu des produits pour prendre soin de son potager, de son jardin, il faut faire attention à nos animaux là aussi.
Exactement.
Chez les voisins aussi.
Bah, c'est ça, c'est que on est tous à vouloir un petit peu mettre des engrais. Le retour du printemps, on est content, on retourne au jardin, on fait de la taille. Donc attention déjà aussi au matériel qu'on utilise, parce que quand on a un chien qui est assez trépidant, attention quand on tombe, quand on taille les, ça peut être dangereux. Il faut des fois le maintenir à distance quand on sait qu'on peut pas, on l'a pas tout le temps sous les yeux. Et puis on utilise des produits comme les engrais, qui peuvent être des fois assez toxiques, et des mollucides notamment. On a beaucoup d'intoxication aux anti-limaces, aux anti-escargots, comme le métal qui contient du métaldéhyde, un produit qui va faire vomir beaucoup l'animal, et surtout des troubles nerveux qui peuvent le faire rentrer dans le coma. Il y en a qu'on tire de là, il y en a qu'on tire pas de là, en fonction de la quantité ingérée. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien voir dans les jardineries les produits qui sont utilisables, notamment pour les anti-limaces, anti-escargots. Moi, j'en utilise personnellement, qui sont pas toxiques pour les animaux, qui marchent très bien. Donc, bien regarder les produits qu'on utilise. Et quand on en utilise des plus toxiques, toujours bien garder les emballages, même quand le produit est fini. Comme ça, si jamais on a un risque ou que l'animal revient du jardin ou présente des symptômes après avoir mangé ci ou ça, ou qu'on sait pas trop, faut pouvoir dire au vétérinaire ce à quoi il a pu avoir accès. D'accord, très important. Et puis les mettre en hauteur aussi dans les mettre en hauteur dans les placards. C'est le moment du printemps où dans les composts se redéveloppent aussi des fois pullulent un peu les rats, les rongeurs et tout ça. Donc on remet de la mora, vraiment. On redit au propriétaire, quand on a un animal, il faut pas utiliser ce type d'appât, même quand on pense que l'animal peut pas y être en contact. Il faut savoir que un chat ou un chien peut ingérer une proie qui a été en contact avec le produit toxique, avec l'appât, et que l'animal s'intoxique avec la proie qui a mangé l'appât.
Oui, donc mieux vaut être prévenant et faire
c'est
attention.
Ça, exactement.
9h10h, côté expert sur France Bleu La Rochelle.
Et on est ravis de vous accompagner pour parler de nos animaux ce matin sur France Bleu La Rochelle, nos chiens, nos chats, et de tout ce que peut apporter le printemps, de négatif comme de positif. On en parle avec Guillaume Pierre Mias, qui est docteur et vétérinaire donc à La Rochelle, et qui est là pour répondre à vos questions au 05 46 50 67 68. Bon, même si aujourd'hui le temps est à la pluie, le retour des graminées, forcément, vous avez beaucoup de consultations autour de tout ça.
Alors autour des graminées, non. Moi, je suis pas
autour de leurs conséquences.
Exactement. Non, vous voyez, en fait, les graminées, comme vous le dites, plusieurs. Donc la première chose, les allergies qu'elles peuvent générer. Et puis en ce moment, il y a des épillets qui sont en train de pousser. Moi, je sais que dans mon jardin, il y a une zone que je laisse un petit peu en prairie. Je vois très bien. Donc, c'est ces graines, en fait, de graminées qui sont au bout des grandes herbes, qui ont des sortes de barbules. Et ces petites graines très pointues, quand elles tombent, elles peuvent être assez délétères, notamment chez le chien, parce qu'elles viennent se mettre entre les poils, notamment des pattes.
D'accord.
Ça peut aller aussi dans le nez ou dans les oreilles. Et puis, ça progresse. Donc, le chien qui se lèche entre deux doigts depuis quelques jours avec une petite boule qui se forme entre les deux doigts, il faut aller voir votre vétérinaire pour retirer cette petite graine qui peut après, progresser sous la peau et créer pas mal de dégâts. Ça peut être assez enquiquinant, ces épillets. Et là, ils commencent juste à sortir. Donc là, on s'attend, nous les vétérinaires, on s'est dit, tiens, dans nos jardins, on en a, ça y est, ça va commencer. Donc, à l'issue d'une balade, si son chien se met à éternuer d'un seul coup ou secouer fort la tête, ça peut être un épillet. Ou dans les jours qui suivent des passages dans le jardin ou une balade, s'il se lèche les pattes, il faut aller regarder tout ça. Et puis, les graminées, c'est intéressant ce que dit Chloé, parce que les graminées, quand elles poussent, on a tendance à vouloir les couper. Et il y a beaucoup de gens dans la région qui ont des tortues de terre qui viennent de sortir d'hibernation depuis 3 semaines, 1 mois. Donc c'est la période. Donc on se dit, tiens, la tortue a dû ressortir. Je l'ai pas trop vue, mais elle doit être dans le coin. Quand on sait pas trop où elle hiberne, on fait attention, parce que quand on sort la tondeuse et que la tortue rencontre la tondeuse, c'est souvent la tondeuse qui est gagnante.
Ah oui, malheureusement.
Donc on trouve beaucoup de gros dégâts sur les tortues parce qu'on n'est pas assez vigilant. Donc l'idéal, nous, c'est ce qu'on conseille, c'est quand même de faire hiberner des tortues dans un lieu clos, soit dans un enclos sécurisé, soit dans une petite caisse en bois, soit il y en a certains qui font ça dans le frigo du garage. Ça paraît bête, mais dans le bac à légumes du frigo annexe,
parce
que la température est assez stable. Et puis quand le frigo commence à bouger au mois de mars, on commence à se dire qu'elle se réveille. Comme ça, on sait où elle est. Ou alors, quand on passe la tondeuse et que la tortue a hiberné en extérieur, faut vraiment s'assurer qu'elle est nulle part.
Oui.
Et quand on sait qu'elle est sortie et qu'on l'a vu dans un coin du jardin, il faut pouvoir se dire qu'une tortue, en 5 minutes, elle a fait 100 mètres. Donc, c'est assez rapide, c'est pas un escargot. Donc, attention, elle se déplace. Et c'est pas parce qu'on l'a vue au fond, vers le cyprès, que 10 minutes après, elle va pas être sous les roues de la tondeuse à l'opposé des cyprès.
Donc, il vaut mieux la mettre dans un endroit clos pendant
dans une
qu'on
caisse,
tond.
Hein, pendant qu'on, quand on tond, il faut exactement savoir où sont là où les tortues. C'est indispensable. Et toutes, hein. Si on a 5 et qu'on en a que 4 et qu'on se dit, bon, bah, tant pis, je ferai attention à la 5e, c'est elle qui va passer sous la tondeuse.
Est-ce qu'une tortue, justement, quand elle sort d'hibernation, il faut faire attention à certains signes pour voir si elle va bien, si l'hibernation s'est bien passée, est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille potentiellement?
Très important. Alors, très souvent, les propriétaires de tortues le savent, quand ils sortent d'hibernation, surtout dans nos régions, on se méfie un petit peu parce que on a des fois des belles journées au mois de mars, donc elles ont tendance à sortir, la photopériode, donc la durée de jour augmente, les températures augmentent, et puis derrière on a un coup de froid qui arrive au mois d'avril ou de pas beau comme en ce moment, et donc elles se remettent un petit peu en off entre guillemets. Une tortue, quand elle sort, elle va pas forcément recommencer à manger tout de suite, mais elle aura été assez déshydratée parce qu'elle a pompé pendant tout l'hiver dans ses réserves donc de nutriments et dans ses réserves d'eau. Donc très important à la sortie d'hibernation de donner un bain d'eau tiède à ces tortues. Quand il y a un beau rayon de soleil, on les met au soleil, un bain d'eau tiède, elles vont boire, elles vont éliminer leurs dernières urines, donc leurs dernières réserves d'eau aussi. Et puis voir si dans la semaine qui suit la sortie d'hibernation, elle a envie de recommencer à manger. C'est important. Et puis un moyen assez simple de savoir comment s'est passée l'hibernation et ce qu'il faut attendre derrière, c'est la peser. Quand on voit que ces tortues vont hiberner, on les pèse avant l'hibernation, on les pèse en sortie, comme ça on sait ce qu'elles ont utilisé comme poids pendant l'hiver pour survivre. Et surtout, de les peser 2-3 semaines après la sortie d'hibernation, voir si elles continuent à perdre du poids ou si elles commencent à en reprendre un petit peu.
Est-ce qu'on donne des choses pour l'alimentation à ce moment-là, en sortie d'hibernation, ou on les laisse faire comme d'habitude?
Alors, comme d'habitude, ça dépend où elles sont. Si elles sont dans un enclos avec peu de nourriture, il faut les nourrir, si vous avez été habitué à les nourrir. Celles qui sont en liberté dans le jardin, qui sont toujours nourries toutes seules, elles vont trouver ce qu'il faut. Les pissenlits qui prolifèrent en ce moment sont une super bonne source d'alimentation pour elles. Le trèfle. Quand on veut quelque chose d'assez calorique, enfin, qu'elle mange bien facilement, on peut donner quelques endives en sortie d'hibernation. Le laiteron aussi, le liseron qui commence à pousser, qui envahit nos jardins et nos potagers qu'on déteste, elles en raffolent. Donc il y a tout ce qu'il faut, une petite feuille de salade de temps en temps, aucun problème.
Vous avez une question? Nos spécialistes ont la réponse. Côté expert. 9h-10h sur France Bleu La Rochelle. 05 46 50 67 68.
9h42, nous sommes avec Guillaume Pierre Mias qui est vétérinaire à La Rochelle. Avec vos questions, vous pouvez nous appeler pour poser une question sur votre chien, votre chat, votre animal de compagnie. 05 46 50 67 68. On parlait un petit peu d'allergie. Quels sont les symptômes typiques de l'allergie, que ça soit chez le chat, chez le chien? Est-ce qu'on va retrouver le même genre de symptômes qui sont aussi les mêmes pour l'homme?
Exactement. Alors un petit peu moins d'allergie en général chez le chat que chez le chien. Les symptômes sont assez similaires aux nôtres. Ça commence souvent par les yeux. Les yeux, c'est un organe qui est assez sensible et conjonctive, notamment les muqueuses qui entourent notre œil et qui protègent à l'intérieur de nos paupières vont réagir. Elles peuvent gonfler, elles peuvent rougir. On peut avoir donc les yeux rouges, les yeux qui pleurent, qui sécrètent un petit peu entre guillemets une grosse crotte d'œil. Et ce qui accompagne souvent les conjonctivites, c'est des éternuements. Comme pour nous. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un érythème, c'est une rougeur de la peau. Donc le tour des paupières, le tour des babines, les pavillons des oreilles, là où la peau est la plus sensible. Dans ces cas-là, ça dure quelques jours à quelques semaines. Sur les animaux qui sont assez dérangés, il faut consulter un vétérinaire qui mettra en place un traitement anti-inflammatoire pour limiter ces symptômes-là et être sûr que ce soit de l'allergie. Avec le recul, il y a certains propriétaires d'animaux qui ont déjà 4-5 ans qui disent « bah chaque année, à la même époque, mon chien fait ça ». Donc on arrive à voir que c'est de l'allergie. Quand c'est vraiment très marqué, nos confrères dermatologues ont tendance à proposer des tests allergos pour savoir à quel allergène l'animal va réagir. Et pour certains d'entre eux, il y a des désensibilisations qui existent, comme chez l'humain.
Est-ce qu'il faut nettoyer les yeux, faire attention?
Oui, un nettoyage souvent quand on a une conjonctivite allergique. Un bon nettoyage, un entretien régulier suffit. Certains produits locaux à base de cortisone peuvent aider dans un second temps, voire de la cortisone par voie générale quand il y en a vraiment besoin.
Vous pouvez nous appeler au 05 46 50 67 68 pour poser vos questions ce matin à Guillaume Germias qui est vétérinaire à La Rochelle. Brigitte est avec nous. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Bonjour Brigitte.
Vous aviez une petite question sur votre chien, dites-nous.
Oui, quand il était petit, il mangeait ses cacas. D'ailleurs, il le fait toujours si je ne les ramasse pas au fur et à mesure. Et par contre, ce qu'il fait toujours, et si je fais pas attention, quand je le brosse, bon, normalement, je ramasse les poils, mais des fois, bon, bah, il en reste, qui traîne par terre, doucement, je le fais dehors, en plus. Et il mange, en fait, tout ce qui vient de lui, il le remange.
Ah oui, d'accord.
Il peut pas.
Ça arrive. Quelle est la race de votre chien, Brigitte?
Comment?
Quelle est la race de votre chien?
C'est un Shih Tzu.
C'est un Shih Tzu, d'accord. Bah, alors, vous savez, il n'y a pas forcément de prédisposition à ça. Ce que fait votre chien, c'est ce qu'on appelle de la coprophagie. Ça arrive. Alors nous, ça nous dégoûte un petit peu. Il faut savoir que pour un chien, tout ce qui nous dégoûte en termes d'odeur et de goût, il va adorer. Et tout ce que nous, on aime, les odeurs de parfum et tout ça, en général, ils n'aiment pas trop. Ces comportements-là, ils peuvent être constants. Personnellement, j'avais un chien qui a fait ça pendant très longtemps aussi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est, ben, quand il a fait sa crotte, ben, la ramasser ou ramasser les crottes de chat qu'on trouve pour pas qu'il le fasse.
Mais il fait qu'avec la sienne, hein.
Qu'avec la sienne, bah c'est qu'il adore ses crottes, hein. Là, en fait, il faut savoir qu'en plus dans les selles, il reste des matières nutritives entre guillemets. Ça dépend ce que vous lui donnez à manger, s'il a beaucoup d'émissions de sel ou pas. Mais ouais, il y a pas assez. Je pense que c'est un chien qui est tout à fait stable par rapport à ça, qui est joueur, qui a pas de soucis comportementaux. S'il l'a toujours fait, il y a des chances qu'il le fasse toujours. Donc voilà, c'est plus éviter le stimuli, donc ramasser ses crottes dès qu'il les fait pour pas qu'il le fasse. Et puis ses poils, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il remange ses poils. Il faut savoir qu'un animal qui fait sa toilette en mange naturellement oui, plusieurs fois par jour et en quantité différente en fonction de la période de l'année, quand il y a des mues et tout ça. Là, en ce moment, vous devez en ramasser beaucoup parce que nos chiens...
Non, il perd pas ses poils.
Il perd pas trop ses poils?
J'oserais dire que je n'en ramasse jamais. Je le brosse, je les trie. Je ramasse ce qu'il y a dans les brosses. Et dans
Si vous le brossez beaucoup, c'est pour ça que vous en ramassez pas. C'est qu'en fait, vous faites son travail à sa place. C'est très bien.
Hein. Est-ce qu'il peut régurgiter les poils qu'il avale s'il en avale trop?
Oui, il peut les régurgiter ou ça peut être évacué dans les selles.
C'est pas gênant?
Non, c'est plutôt gênant chez le chat. Le chat poil long, il peut faire ce qu'on appelle les trichobézoars, donc des boules de poils qui s'auto-entretiennent dans le ventre et qui, au bout d'un moment, ne peuvent plus être évacuées et qui peuvent entraîner des inflammations gastriques assez chroniques, récurrentes, qui peuvent être enquiquinantes. Mais le chien, en général, les tolère très bien.
C'est avec un chat angora que j'avais, ça m'était arrivé, ça.
Voilà, ah oui. Ça m'étonne pas. C'est... Mais le chien est beaucoup moins sensible à ça, en général.
Voilà, d'accord. Brigitte.
Bon, je vais continuer à ramasser.
C'est ça. Ça fait des jardins plus propres.
Oui,
en plus.
Ça évite de marcher dedans.
C'est ça.
Pour nous.
Bon, j'ai pas le temps de ramasser, je le suis pas en temps.
Bonne journée,
merci,
Brigitte.
Merci, au revoir,
Brigitte.
Beaucoup, au revoir.
Merci. Et à bientôt. 05 46 50 67 68, comme Brigitte, venez poser votre question à Guillaume-Pierre Nias, qui est vétérinaire à La Rochelle et qui est là pour vous répondre encore quelques minutes juste après Stéphane, ma chérie, sur France Bleu. De nos animaux ce matin, de nos chiens, de nos chats, avec le docteur Guillaume-Pierre Mias, qui est vétérinaire à La Rochelle et qui est avec nous. On a parlé un petit peu de tous les dangers, entre guillemets, enfin tout ce dont et à quoi il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des vaccins, des petites choses aussi, des rendez-vous à prendre chez le vétérinaire à cette période en particulier?
Alors pas spécialement, parce que les vaccins, ça dépend du calendrier vaccinal de chaque animal, mais c'est sûr que il y a des vaccins pour les maladies qui sont transmises, notamment au moment du printemps, par les vecteurs comme les tiques, donc des vaccins contre la pyroplasmose, la maladie de Lyme dont on a parlé tout à l'heure, sont très intéressants à mettre en place, notamment chez l'animal en croissance, avant qu'il ait fini sa croissance, et qui s'ajoute au protocole vaccinal, entre guillemets, de base. Mais c'est pas forcément à ce moment-là qu'il faut aller faire ces vaccins. Tout dépend de l'âge de votre animal et de quand ont été mis les vaccins en place. Faire attention un petit peu plus à son chat qui sort. En général, les chats sortent beaucoup plus là. C'est le moment où on se réapproprie un peu le territoire, où certains mâles non castrés vont se battre aussi pour des femelles. Donc, en ce moment, les abcès de chats, ça défile, parce qu'il y a de la baston. Il y a de la baston, et forcément les séquelles qui vont avec. Donc un petit peu, voilà, vérifier un petit peu ces choses-là, et bien voilà, bien traiter ces animaux. On a tendance à mettre un petit peu les traitements antiparasitaires, donc internes et externes, en stand-by pendant l'hiver. C'est le moment où il faut bien recommencer, et certains animaux en ont besoin toute l'année. Il faut savoir que les tiques, ce qu'elles affectionnent, c'est les températures entre 5 et 15 degrés, d'humidité, donc vraiment dans nos contrées qui sont pas très froides.
Là, c'est l'idéal.
Il y en a toute l'année.
Les vermifuges, les antiparasitaires, est-ce qu'il y a des moyens d'administration à privilégier, plutôt en comprimé, plutôt les colliers, plutôt des injections?
Ce qui est le plus simple. Alors les colliers en général sont plutôt des répulsifs que des traitements curatifs et préventifs. Mais ça dépend de son animal. Chez le chat, souvent, la pipette est plus simple parce qu'on a plus de mal à donner le comprimé. Chez le chien, moi, j'aime bien l'administration par comprimé parce que certains ont une rémanence, donc une durée d'action de 3 mois. C'est très pratique. Ça permet de traiter que 4 fois par an. Et contrairement à ce qu'on pense, souvent, les gens sont réticents à donner des cachets parce que ça passe dans le sang. Faut savoir que 90% des pipettes aussi qu'on met sur la peau passent dans le sang. Donc, c'est juste une différence de voie d'administration, mais le mode d'action est le même derrière.
En cas de doute, le mieux c'est de passer un petit coup de fil à son vétérinaire.
Oui, et puis de consulter, il y a beaucoup de produits que vous n'aurez pas sans que le vétérinaire ait fait un check-up de votre animal. Donc quand on le fait au moment du vaccin, chaque année, une fois que le check-up est fait, pendant un an, l'animal peut se voir délivrer des produits sans avoir besoin de reconsulter son vétérinaire.
D'accord.
Mais un animal qui en a jamais vu, il aura des produits sans ordonnance qui sont un petit peu moins efficaces et qui ne protègent pas forcément contre tous les parasites.
Oui, il faut faire attention aussi à ça. Il y a différents types de produits qui existent de plus ou moins bonne qualité.
Exactement,
peut-être.
Exactement, c'est comme pour nous. Est-ce qu'on trouve en animalerie sans ordonnance? Ben souvent c'est pas très efficace, ou dans d'autres, ou en supermarché, comme pour nous, hein. Quand on prend des médicaments au supermarché, faut pas s'étonner qu'ils marchent des fois un petit peu moins bien que celui qui a été prescrit par le médecin et délivré en pharmacie.
Vous pouvez poser vos questions ce matin au 05 46 50 67 68. Et on a une question de Cathy à Saint-Christophe. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Cathy.
Alors on vous écoute pour votre question.
Alors j'ai mon chat qui, bon, elle perd beaucoup de ses poils, elle se lèche, d'accord, mais elle se gratte beaucoup et je lui passe le peigne fin, je vois pas de puces.
Alors, vous savez qu'il dit, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles sont pas là. Elles sont malines, ces puces. Et très souvent, quand on a un chat avec des puces, j'ai tendance à le mettre sur le dos et aller regarder le ventre, là où le chat a exécuté avec la bouche. Et souvent, elles se mettent sur le bas du ventre. On en voit qui partent.
Ah ouais, bah alors là, pour y aller, oui.
Bah voilà. Et donc, le peigne anti-puce, c'est déjà très bien, mais on voit pas tout, surtout qu'ils ont un pelage qui est très épais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains animaux qui sont allergiques aux piqûres de puces, c'est une allergie qui est bien connue, il suffit d'une ou deux piqûres des puces, même si elle est plus présente sur le poil, pour générer l'allergie. Et vu qu'après le chat se gratte, il entretient le prurite, donc les démangeaisons, et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc il suffit de une ou deux puces pour entraîner une bonne démangeaison chez le chat, et du coup une ou deux puces dans son pelage, vous la voyez pas forcément.
D'accord.
Est-ce que vous avez donné un traitement récemment, Cathy?
J'avais donné contre les puces, mais bon...
Mais quel type de... Alors, donnez pas de nom de marque, mais il y a beaucoup, beaucoup de noms de marque, donc est-ce que c'est un traitement que votre vétérinaire vous a prescrit?
Oui, oui.
Ok, donc ça déjà c'est bien, ça veut dire que c'est efficace. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les traitements anti-puces, si vous avez un chat qui sort, qui va souvent au même endroit, et que les puces, elles ont un stade larvaire et d'œufs qui résistent très longtemps dans les poussières, jusqu'à des fois 8-9 mois.
Ah oui.
Donc votre chat, vous avez beau le traiter contre les puces, le traitement va tuer les puces vivantes, donc elles vont venir le piquer. Mais il se peut que très régulièrement, il se réinfeste de puces dans son environnement. Donc des fois, faut traiter l'environnement. Donc c'est pas parce que le traitement est présent que il n'y aura pas de piqûre. Et le principe des traitements anti-puce chez le chat, c'est que la puce, elle va mourir quand elle va piquer votre chat, parce que son sang est devenu toxique grâce au produit. Donc on ne va pas prémunir votre chat contre la piqûre, mais on va prévenir votre chat contre le développement de puces et la multiplication des puces sur lui. S'il est allergique, il suffit d'une ou deux piqûres pour que les démangeaisons commencent. Donc, important à mon avis, si vraiment, malgré le traitement que vous avez fait, qui est très probablement efficace contre les puces, votre chat se gratte, il faudrait consulter votre vétérinaire pour être sûr qu'il ne soit pas parti en crise allergique.
Bon.
Voilà qui est.
Et puis ça peut être dû à d'autres choses que les puces, hein.
Oui.
Si c'est un chat qui sort, ça peut être.
Elle voyage beaucoup, hein.
Ben voilà. Donc.
Elle fréquente d'autres chats, hein, alors.
Ok, voilà. Si elle fréquente en plus d'autres chats, donc les démangeaisons après s'auto-entretiennent, donc ça vaut le coup de briser ce cycle-là.
D'accord.
Ok.
Merci pour votre question, Cathy. Belle journée.
Merci, bonne journée, au revoir.
Et merci, docteur, d'être venu nous voir ce matin pour parler de nos animaux. Le docteur Guillaume Pierre Mias, qui est vétérinaire, donc à La Rochelle. Vous pouvez retrouver cette émission sur FranceBleu.fr.